Voilà, vous le, on verra tout à l'heure. Il en parle avec beaucoup de profondeur et de force. Alors ce soir, c'est Ézéchiel qui fait suite. Alors à chaque fois, vous me demandez, je me suis rendu compte que trois fois de suite, en se quittant, l'un d'entre vous disait... Alors la prochaine fois, ce sera. Alors on parlait d'Isaïe. Oui, ce sera Isaïe. Puis à chaque fois, c'est pas Isaïe. Donc aujourd'hui, c'est pas Isaïe. Et je sais pourquoi je vous réponds à chaque fois Isaïe. C'est que Isaïe fait partie des tout premiers prophètes au 8e siècle. Il fait partie des prophètes de l'exil au milieu. Et il fait partie des prophètes du retour d'exil. Voilà. Donc la prochaine fois. Ce sera Isaïe. Enfin, donc la personne ou les personnes qui disent la prochaine fois sera Isaïe, vous pourrez me le redire tout à l'heure. Et donc, vous aurez raison.
On ne le dit pas parce qu'on a le programme.
Et c'est pour ça que je me suis dit, mais le mieux, c'est de réimprimer le programme. Voilà, j'ai réimprimé le programme. Mais Isaïe, et pourquoi je l'ai mis plutôt à la fin? Parce qu'il a une valeur un peu récapitulative de relecture de toute l'histoire. Et évidemment, avec le dernier que nous verrons, qui est Daniel, ce sont des prophètes qui nous mettent, qui ont les prophéties les plus proches des évangiles. Hein, on le verra avec le serviteur souffrant, avec la prophétie de l'Emmanuel. Donc Isaïe est vraiment comme ça, puis Daniel avec le royaume éternel. Voilà. Mais là, c'est un aboutissement finalement, une sorte de logique, hein, vous verrez. Avec Ézéchiel, on l'évoquera à deux ou trois reprises dans la soirée, Ézéchiel qui vient après Jérémie, d'abord dans la chronologie, hein, il est à peu près à la même époque, mais un petit peu décalé un peu plus tard. Ensuite, dans le corpus biblique, dans la Bible, il vient juste après Jérémie, hein, si on met entre parenthèses les deux livres qui se cachent derrière Jérémie, à savoir les Lamentations et Baruch. Les prophètes importants, c'est Jérémie, puis Ézéchiel. Et puis, au niveau thématique, au niveau du contenu, hein, vous verrez, là aussi, j'aurai l'occasion de revenir dessus, il vient après Jérémie sur la théologie. On retrouve une même théologie, mais qui va s'approfondir sur certains points. Hein. Vous vous souvenez, on avait parlé de Élie avec le choix de Dieu contre les prophètes. Dans la suite d'Élie, il y avait Osée dans la même thématique, mais qui introduit le thème du cœur et de l'amour. Jérémie va approfondir Osée, hein, avec ce thème de la conversion, l'annonce de la loi gravée dans le cœur. Hein. Donc, et là, Ézéchiel, vous allez voir une espèce d'approfondissement à chaque fois, la continuité, hein, qu'on a eue entre Élie, puis Osée, puis Jérémie, puis Ézéchiel. Et là, Ézéchiel, vous allez voir une sorte de basculement. Hein. Je vous dis déjà en introduction ce que je devrais dire dans la conclusion, c'est que Ézéchiel, on le trouvera à la vigile pascale, dans la dernière des sept grandes lectures de l'Ancien Testament. Il nous met vraiment au seuil, lui aussi, du Nouveau. Alors, le plan est on ne peut plus simple, présentation générale, et ensuite, les visions d'Ézéchiel, c'est-à-dire le livre d'Ézéchiel à travers des visions. À l'intérieur de la partie sur les visions d'Ézéchiel, je prends comme fil conducteur la question de la gloire de Dieu. Je reviendrai dessus, qu'est-ce que c'est que la gloire? La gloire pour un peuple en exil, ensuite là-bas, la gloire de Dieu par rapport à la question des péchés du peuple, et finalement la gloire de Dieu dans la restauration du peuple. Voilà, ça fait un programme qui, comme à chaque fois, est très très dense, mais je sais que le but, comme c'est une introduction à la lecture de la Bible, le but, c'est que vous ayez le goût de sortir votre Bible, ce que je vais faire. Ça, c'est quelque chose pour ceux qui seront en Terre Sainte, vous verrez, il y a un apprentissage, enfin, une fois, j'ouvre mon sac, je prends dans mon sac ma Bible, et j'ouvre ma Bible, alors tout le monde fait pareil, vous savez, un peu comme au Club Med, là, en fait. Voilà, seulement là, c'est pas Club Med avec je sors ma crème solaire et puis on fait du hip-hop, là, c'est le hip-hop biblique de la Bible. En Terre Sainte, vous verrez, on fera cet exercice. Puis pareil, avec la casquette, on sort la casquette, la gourde et la Bible. Casquette, gourde, Bible, et là, on est... en espérant bien sûr que la paix revienne et on prie pour cela. Voilà, mais rien n'est joué. Et ce soir, justement, nous allons nous promener entre Jérusalem et ces régions hein, qui sont actuellement bousculées par la guerre. Ça nous permet de nous unir justement à la prière de l'Église pour que la paix revienne. Voilà, présentation générale du prophète Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel plutôt d'ailleurs. Hein. J'insiste sur le fait que c'est un apprentissage de la lecture de la Bible. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est d'ouvrir le livre et donc nous lisons un livre. Ézéchiel évolue dans une situation très similaire à celle de Jérémie, quelques années avant lui. Je vous avais dit, Jérémie, on le situe à l'époque du roi Josias, à la fin du 7e siècle. C'est la fin de l'Empire assyrien. C'est la réforme liturgique, la réforme spirituelle, et oui, liturgique, on peut dire, autour du Temple de Jérusalem. Et Jérémie qui voit la menace des Babyloniens et qui appelle le peuple d'Israël à écouter le Seigneur plutôt que d'écouter ses calculs politiques qui, de toute façon, n'aboutiront pas. Et c'est ce qui se passe. Eh bien, Ézéchiel, hein, il connaît cette même période un peu intermédiaire où il y aura une première invasion babylonienne, 598, et puis Ézéchiel ira jusqu'à la chute de Jérusalem, l'année même où Jérémie va mourir, enfin il disparaît juste après. Donc on est vraiment dans la continuité. Il donne des indications précieuses hein, dans l'introduction de son livre. Hein, il se met à prophétiser tandis qu'il est au milieu des déportés près du fleuve Kébar. C'était dans la 5e année d'exil du roi Joïakin. Voilà. Donc on peut situer 593 puisque 598, c'est la première déportation. Uniquement le roi et l'élite de Jérusalem. Et donc, cinq années après, on est en 593. Ça permet de dater la prophétie d'Ézéchiel. Voilà. Hein, les Babyloniens ont ravagé le territoire de Juda et exilé l'élite d'Israël avec le roi. Là, vous vous souvenez, on avait parlé de Sédécias, hein, qui a essayé de résister, mais il s'est fait rattraper en essayant de fuir un soir dans la vallée du Cédron. Une scène assez dramatique, on égorge ses fils devant lui, on lui crève les yeux et on l'amène à Babylone où il termine lamentablement. Voilà. Et Ézéchiel a fait partie de cette première vague de déportés. Mais il va prophétiser pour ceux qui sont en Juda. Hein, il s'adresse à un peuple qui reste à Jérusalem tout en étant avec les exilés. Il est au milieu des déportés près du fleuve Kébar. Donc ces prophéties s'adressent au peuple d'Israël, hein, qui est encore majoritairement en Juda. Pendant ces 11 années, j'ai évoqué, il y a eu l'activité de Jérémie, qui en fait est sur la même ligne que Ézéchiel, ou plutôt Ézéchiel, qui est sur la même ligne politique que Jérémie. En gros, ne vous fiez pas aux calculs politiques hasardeux avec l'Égypte, mais profitez finalement de cette occasion de l'invasion de Juda et de l'exil pour un renouveau spirituel. Hein. Et il faut bien reconnaître que l'histoire leur a donné raison, puisque l'exil a été un creuset extraordinaire pour Israël, de réflexion, de conversion, de reprise et finalement de constitution du judaïsme. C'est vraiment le moment où le judaïsme s'est constitué au retour d'exil en ayant compris les leçons que l'exil lui avait données. Donc c'est une période qui va être très très importante pour la renaissance du peuple d'Israël. Sur la biographie d'Ézéchiel, alors on ne peut pas dire grand-chose déjà sur les prophètes, mais alors avec lui, on ne sait quasiment rien. Hein. Il ne dit presque rien de lui-même et souvent on essaye de deviner à travers les oracles ce qui s'est passé. Hein, l'histoire de Jérémie, on arrive quand même à voir ses démêlés avec le personnel du temple, on arrive à voir les histoires avec l'Égypte, on arrive à voir... Mais alors Ézéchiel, avec ses visions assez... déjà on peut commencer à employer le terme apocalyptique, c'est encore plus difficile. On sait qu'il est prêtre. Hein, c'est-à-dire membre. Alors prêtre, hein, c'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Il n'y a pas un service d'évocation avec quelqu'un qui dit « j'ai ressenti l'appel ». Prêtre, ça veut dire faire partie d'une famille sacerdotale, c'est-à-dire une famille de la tribu de Lévi. Là, tout le monde le sait bien. Hein, donc, le prêtre est un terme assez large, mais probablement tel qu'il est employé pour les Lévites. C'est vrai qu'en général, on emploie le terme de Lévite, prêtre. C'est-à-dire que la famille de Sadoc, hein, une famille qui officie, parce que les Lévites, c'est beaucoup plus large que prêtres, en fait. C'est tous ceux qui ont une fonction liturgique. Hein. Voilà. Donc, il est d'une famille sacerdotale, fils de Buzi, hein, mais on ignore l'identité de ce Buzi. Hein. Il est attaché à Jérusalem, mais prophétise en exil à Babylone. Il n'empêche que sa perspective reste Jérusalem. Hein. Vous vous souvenez, quand on parlait de Osée ou Élie, il s'adressait à Israël au nord, hein, et Jérusalem n'avait pas la place qu'elle aura avec Jérémie ou avec Ézéchiel. Quand on emploie le terme de Jérusalem, il faut bien comprendre, c'est une petite parenthèse, hein, quand on lit Ézéchiel et beaucoup d'autres livres bibliques, quand on emploie le mot Jérusalem, par derrière, il faut comprendre le peuple d'Israël. Hein, c'est pas que la ville, hein, c'est le peuple d'Israël à Jérusalem. Voilà. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. On doit attacher à son état sacerdotal le fait qu'il appartienne à une famille de prêtres, l'importance qu'il donne au culte, un élément structurant de son livre. Alors, malheureusement, en une heure, on prend quelques petits passages très rapides, mais il faudrait lire le livre et complet d'Ézéchiel. Et vous verrez toute la place que le culte, la place que le temple prend dans son livre. Et d'ailleurs, le livre se termine par une vision qui nous place au temple de Jérusalem. Voilà. Puis après, il y aura le chapitre 48 avec la question de la division du pays. Hein, il y aurait toute une réflexion à avoir sur la terre que je ne ferai qu'évoquer tout à l'heure. Voilà, le plan du livre... Toujours important d'avoir le plan, de bien situer les éléments dans une architecture. Ça, c'est vraiment capital. Hein. Si vous voyez, vous allez dans un musée et que vous voyez un chapiteau et que vous n'avez jamais vu une cathédrale, vous direz « Oh, que c'est bien sculpté », mais ça ne vous dira pas grand-chose. Si en revanche, vous voyez, vous savez ce que c'est qu'une cathédrale et que vous voyez un chapiteau, mentalement, vous allez resituer le chapiteau dans la cathédrale, il va prendre une toute autre densité au niveau esthétique, au niveau émotionnel. Voilà. Eh bien, la Bible, c'est une immense cathédrale. Voilà. Donc, c'est important d'avoir les plans, hein, la place des livres, les plans, et les passages qu'on lit prennent leur signification. Voilà. Alors, quelle est la cathédrale, oui, du livre d'Ézéchiel. Voilà. Un plan en trois parties, hein, qui est classique chez les prophètes, qu'on retrouve chez plusieurs prophètes. Après une introduction sur l'appel du prophète, j'avais insisté dessus lors de la première séance, l'appel du prophète est capital, hein, parce que le prophète, il n'y a pas de prophète professionnel, le prophète c'est quelqu'un qui est appelé pour une parole qui ne vient pas de l'homme mais de Dieu. Donc le thème même de l'appel est important. Trois chapitres pour parler de l'appel du prophète. Hein, c'est dire que Ézéchiel est vraiment un homme appelé, hein, qui ne s'est pas institué lui-même. Voilà. Ensuite, on a nos trois parties importantes qui se déploient. Une première partie avec des oracles contre Juda, hein, pas encore parti en exil, comme je vous le disais. Donc, ce sont les Judéens. Là aussi, je fais beaucoup de parenthèses là. Quand on dit Juda, en fait, c'est tout le peuple d'Israël. Il faut se souvenir que le royaume du Nord a été balayé. Les Israélites se sont réfugiés à Jérusalem. Donc Juda, Jérusalem, c'est la même région, hein, c'est la Judée. Voilà, oracle contre Juda, hein, c'est-à-dire contre le peuple d'Israël. Voilà, chapitre 4 à 24. Deuxième partie, chapitre 25 à 32, ce sont des oracles contre les nations, hein, en particulier contre Tyr, hein, dont il était déjà question dans le Nord, puisque Tyr était voisin du royaume du Nord, et puis contre l'Égypte, hein, avec laquelle Sédécias était tenté de faire alliance. On retrouve le problème de l'alliance politique de Sédécias, une alliance désastreuse. Voilà, 25 à 32. Et enfin, la troisième partie, chapitre 33 à 48, qui ouvre une espérance pour Israël. Le but du prophète, c'est de... toujours d'ouvrir une espérance. Rares sont ceux qui ne laissent pas poindre de façon explicite cette espérance. Voilà. Alors, au niveau littéraire, Ézéchiel emploie des genres ce qu'on appelle des genres littéraires variés. Une nouvelle parenthèse. Je suis très heureux finalement parce que à travers ce cours qu'on fait, j'emploie du vocabulaire ou des termes qu'il est important de connaître, il est important de se familiariser. Ça vaut pour toute la lecture de la Bible. Hein. Donc la parenthèse est un peu longue et elle est importante. Vous savez que dans l'histoire de l'exégèse au XXe siècle, dans l'enseignement des papes y compris, on a pris l'enseignement de l'Église accorde beaucoup d'importance à la question des genres littéraires. Ça veut dire on ne lit pas la Bible de façon littéraliste, hein, en disant « c'est écrit, donc on applique ». Non, on prend en compte le fait qu'il y a un genre littéraire qui va déterminer la manière de lire le texte. Hein, c'est très très important ça, hein, on ne peut pas tout mettre sur le même plan. Il y a des contes, il y a des épopées, il y a des poèmes, il y a des chroniques, voilà. Hein. Donc la question des genres littéraires, c'est une question qui est tout à fait capital. Hein. À la fin, il se peut qu'aujourd'hui, on ait un petit peu de temps pour les questions à la fin, hein, avec un peu de chance, et on pourra revenir dessus. La question des genres littéraires, c'est une question qui est très, très importante. Donc, chez Ézéchiel, on a plusieurs genres littéraires, des oracles, des récits, des actions prophétiques. Je vous en ai parlé la dernière fois, les actions prophétiques, hein, un geste un peu étonnant et lourd de sens, et surtout des visions, hein, qui sont probablement la caractéristique la plus marquante du livre d'Ézéchiel, hein, et qui en rendent la lecture un peu difficile parfois. Hein. Voilà. Alors justement, les visions. Hein. Nous allons parler des visions. Il y en a plusieurs. En réalité, je vais parler surtout de deux visions, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Ou une vision qui va entraîner toutes les autres. Dans l'introduction de son livre, hein, au tout début du livre, au chapitre 1, verset 3, Ézéchiel explique que la parole du Seigneur lui fut adressée quand il est au pays des Chaldéens, les Casdim, hein, aujourd'hui on va dire que c'est en gros c'est l'Irak, hein, au bord du fleuve Kébar. Et c'est là que la main du Seigneur fut sur lui. Et au verset 4, « Je regardais ». Je regardais. Là, on a un procédé biblique très, très important qui va introduire progressivement ce qu'on appelle l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est que l'Apocalypse ? Ben, c'est ça. L'Apocalypse, c'est une vision. L'Apocalypse, ce n'est pas « qu'est-ce qui va se passer ?» Quand on lit le livre de l'Apocalypse de Saint-Jean, l'Apocalypse de Saint-Jean ne dit pas « qu'est-ce qui va se passer ?» Non. L'Apocalypse de Saint-Jean nous dit « quelle est la vision que Jean a eue ?» Ce n'est pas les événements à venir qui comptent, c'est la vision du prophète. Il faut vraiment comprendre ça de façon définitive. Ça doit être la 12e parenthèse que je fais depuis le début du cours. Voilà. Mais c'est important, le mot apocalypse. Quand les gens vous disent « Ah, je lis l'apocalypse, et il y a des événements terribles ou géniaux. » Non, peut-être qu'il y en a. Mais le poids, la densité du mot apocalypse, c'est-à-dire c'est une révélation, un dévoilement que Dieu fait envers son prophète qu'il a appelé. Donc, Ézéchiel est le premier grand prophète apocalypticien, comme le sera Saint Jean, qui va beaucoup s'inspirer d'Ézéchiel. Ouverture du ciel, ouverture d'une signification, ouverture d'un sens, et ça suppose qu'il y ait un homme qui soit suffisamment habité par Dieu pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il voit, hein, ce que les autres ne voient pas. Il peut y avoir une définition du prophète. Voilà, la vision de la gloire de Dieu. Voilà, la gloire de Dieu et le peuple en exil. Ézéchiel est un voyant. Il faut savoir, au tout début de l'histoire des prophètes, hein, il y a des moments où on disait le prophète c'est un voyant, hein, quelqu'un qui voit. Dieu lui donne la mission d'être guetteur. Hein, je vous renvoie à deux textes qui sont importants. Ce qui veut dire la mission de voir ce qu'il veut voir et que les hommes ne voient pas toujours. Mais aussi, le guetteur, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas, d'accord ? Souvent un petit enfant. Vous savez, les gens, on va regarder des choses extraordinaires, « Oh, maman, regarde !»« Ah oui, on n'avait pas fait attention !» Et on va rapporter, en effet, ce qu'il fallait. Voilà. Mais aussi, le guetteur, ça veut dire anticiper, voir plus loin, voir plus en profondeur. La première vision d'Ézéchiel c'est un char de feu qui évoque l'arche d'alliance surmontée des chérubins. Ézéchiel 1, Ézéchiel 10. Alors on a des descriptions de l'arche d'alliance et là on retrouve les mêmes éléments que l'arche d'alliance. C'est une vision divine hein, qui renvoie à une expérience de Dieu. Une vision divine, ou plutôt, pour être plus exact, hein, c'est pas on est dans la vision d'un Dieu qui se révélerait de manière directe, ça la Bible le refuse tout à fait, bien au contraire, la Bible brouille les pistes, hein, parce que Dieu est insaisissable. Hein. C'est plutôt un ensemble de formes et de mouvements qui expriment la gloire de Dieu. Hein, là on est dans le thème déjà apocalyptique, hein, des formes qui vont évoquer quelque chose de plus grand. Pourquoi une vision? Eh bien parce que la vision dit des choses que les mots ne peuvent pas dire. Par certains côtés, la vision en dit plus que des mots. Le mot essaye de décrire. La vision nous met dans une présence. Hein, quand on voit un visage de quelqu'un particulièrement expressif, essayer de trouver les mots, ce sera déjà pas mal. C'est ce que font les romanciers, les psychologues. Mais vous voyez bien que aucun mot ne pourra rendre cette expérience que vous avez eue de la présence du visage. Le regard nous met en présence. Voilà. Le regard, hein, une vision de choses un peu indescriptibles. Alors, je cite quelques passages, mais il faut que vous fassiez l'expérience de lire tout le passage et d'essayer, vous ferez ça quand vous serez chez vous, vous essaierez de vous figurer matériellement ce que décrit Ézéchiel. Et vous arrêterez à un moment, parce que sinon vous aurez la tête qui explosera. Il vaut mieux. Hein. Moi, j'ai essayé, voilà. Voilà. C'était un vent de tempête, un feu jaillissant. Au centre, je discernais quelque chose qui ressemblait à quatre animaux. Je regardais les animaux, et voici qu'il y avait une roue à terre, à côté des animaux aux quatre faces. Lorsque les animaux s'élevaient de terre, les roues avançaient à côté d'eux. Et lorsque les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient. Enfin, il y a un moment, il explique que les roues près des animaux vont dans les quatre directions. Donc, les quatre animaux qu'il y a au bord du char, des côtés du char, donc les quatre directions. Et le char avance. Alors, comment peut-il avancer si les roues vont dans les quatre directions? Et maintenant, vous avez la roue qui est à l'intérieur de la grande roue, qui elle-même... Donc, voilà. Hein, donc, vous avez compris qu'il y a une sorte de mouvement qui déborde l'expérience commune. Paul Beauchamp parle d'une hypertrophie de la vision. Il ne s'agit pas simplement de désarticuler la pensée rationnelle de l'homme. Il s'agit plutôt de dire qu'il y a un excès de sens, un excès de présence. Quelque chose est tellement intense que, à travers ces images, on va essayer de percevoir quelque chose de cette présence. Et quelle est cette présence? Eh bien, c'est précisément la gloire de Dieu. Quelque chose, vous voyez, c'est même pas « je vis la gloire de Dieu », c'est quelque chose qui ressemblait à la gloire de Dieu. Là, on est dans un langage tout à fait biblique, hein, qui sollicite l'attention du lecteur. Quelque chose qui ressemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose qui ressemble? Donc Ézéchiel va essayer d'en rendre compte à travers cette figure de l'arche qui semble se dilater, avancer. Je vous renvoie à un commentaire de Saint Grégoire le Grand, tout à fait magnifique, hein, qui essaie de rendre compte de ce que veut dire cette vision, cette hypertrophie de la vision. Un très très beau texte, hein, l'idée que la parole de Dieu grandit avec celui qui le lit. Hein, le peuple de Dieu qui reçoit la révélation de Dieu, eh bien participe de cette sorte de dilatation. Hein, et c'est ça la gloire. Qu'est-ce que c'est que la gloire? La gloire en hébreu, hein, le mot gloire, c'est en hébreu c'est kabod. Kabod. Alors, kabod, comme la plupart des mots théologiques en hébreu, théologiques ou conceptuels, kabod, ça renvoie à une réalité matérielle, concrète. Kabod, c'est, vous allez chez le boucher, chez le charcutier plutôt, Bonjour, vous me donnerez une demi-livre de cabode. Alors vous, les bons biblistes que vous êtes le boucher, mais on ne demande pas un morceau de gloire. Ah non, mais je demande un morceau de foi. Hein, le cabode, c'est pas F-O-I, hein, F-O-I-E. Le cabode, c'est le foie. Voilà. S'il y a des médecins parmi nous, je crois que le foie, c'est assez lourd. Hein, c'est ça, c'est un peu lourd, un peu épais, un peu... Voilà. Même en arabe, on dit cabode. Quand on va acheter du foie, on dit du cabode. Et ben voilà. Hein, donc, et l'histoire, en cette 13e parenthèse, hein, la cabode, c'est du foie. À partir du foie, on dit c'est la lourdeur. Et à partir de la lourdeur, on dit c'est la gloire de Dieu. Parce que la gloire, c'est Dieu qui fait sentir sa présence. La gloire, c'est Dieu qui fait sentir sa présence. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? C'est l'éclat, encore une fois, d'une présence qui se fait sentir. Hein ? Je suis là. La gloire de Dieu. Hein, la cabode. Hein ? On retrouve le mot cabode, par exemple, dans le livre d'Isaïe, quand il y a les séraphins qui apparaissent. Hein, et Saint, 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 le Seigneur, et sa gloire remplit le temple et remplit le ciel et la terre. Kavod, la Kavod Adonai. Hein. C'est très important ce lien entre la chair et l'esprit dans la Bible. Les deux sont toujours liés. Hein. Quand on dit, par exemple, l'âme, Dieu mit une âme quand il créa Adam, en fait, l'âme, d'abord le mot, c'est nefesh, c'est la gorge. Vous voyez ? On pourrait donner plein d'exemples comme ça. La gloire de Dieu, c'est sa présence incandescente et agissante que le prophète Ézéchiel perçoit, mais vous l'avez compris, sans pouvoir la saisir. Hein ? C'est pourquoi on ne peut pas comprendre comment les images fonctionnent. Dieu est saint, l'homme perçoit quelque chose de la gloire de Dieu, de sa sainteté, et en même temps, il ne peut pas le saisir. Voilà, ça va sur la question de la gloire, c'est très très important, hein, parce que dans la Bible, ça va jouer un rôle important, évidemment dans le Nouveau Testament. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. On va comprendre que la gloire, ça ne veut pas dire uniquement une sorte de triomphe étincelant, hein, c'est d'abord la densité d'une présence, ou le fait d'éprouver une présence. Voilà. La gloire de Dieu est associée, bien sûr, au temple de Jérusalem. Dieu fait reposer sa présence, sa Shekinah, au temple de Jérusalem. Si le temple est détruit, alors c'est un drame. Parce que le temple est le lieu où on peut louer le Seigneur. On ne célèbre pas le culte en dehors du temple. On célèbre la Pâque, on va au temple de Jérusalem. C'est au temple que les prêtres officient. Même, je vous ai parlé de la réforme d'Ézéchias, la réforme de Josias. On a supprimé tous les sanctuaires de province qui étaient des sanctuaires, qui finalement étaient devenus des sanctuaires païens, pour dire il y a un lieu que Dieu a choisi, et c'est le temple de Jérusalem. Donc, très bien, on fait la réforme de Josias. Et le temple est détruit. C'est une situation absolument dramatique, qui est vécue comme une mort. À un degré moindre, parce que vous me direz, mais les prêtres peuvent célébrer la messe partout où ils sont dans le monde. Mais on a bien vu pendant le confinement, quand il n'y avait plus d'église, ça nous... Et là, bon, on a pris conscience que ne pas avoir d'église, c'était très ennuyeux. Et que si les églises étaient détruites, et s'il n'y a plus du tout de prêtres pour célébrer la messe, alors là, on est dans quelque chose qui, d'un point de vue spirituel, est comme une mort. Alors pour Israël, ce n'est pas simplement spirituel, parce que le spirituel et le politique et l'humain sont très, très liés. Hein. Donc la destruction du temple pour Israël, ça a été un drame qui était vraiment vécu comme une mort. Hein, je vous disais que l'exil a été un creuset spirituel fondamental pour Israël. On peut dire que c'est le moment où il y a la grande réflexion sur la mort. Et la résurrection, on en dira un mot tout à l'heure. Voilà. Or, Ézéchiel est témoin d'une autre vision dans laquelle, après avoir quitté le temple, la gloire de Dieu accompagne le peuple en son exil. Ça, c'est totalement inédit. Israël était finalement un peu comme les nations païennes, disaient, nous, notre Dieu, il est lié à notre temple. Le temple est détruit, et notre Dieu va se déplacer avec nous. Alors là, on va toucher quelque chose de très décisif dans la révélation biblique. On a relevé l'importance de l'histoire chez les prophètes. Je vous ai dit qu'on ne peut pas comprendre un prophète si on ne prend pas en compte l'histoire. Ça, c'est sûr. Les prophètes, c'est la parole de Dieu qui intervient dans l'histoire. Chez Ézéchiel, il faut y ajouter la géographie. La géographie va jouer un rôle tout à fait capital. Il faut bien comprendre cette question du déplacement de la gloire de Dieu. Les religions païennes, comme je vous l'ai dit, donc toutes les religions païennes, au moins en Orient, Proche-Orient, je ne connais pas trop ce qui se passe ailleurs, mais je pense que ça devait être le cas, les religions païennes associent leur territoire à leur territoire ou à un sanctuaire, le dieu auquel elles rendent un culte. Donc en gros, le dieu, c'est le dieu d'un territoire. Nous, le dieu de chez nous, par exemple, les Babyloniens, ils disent notre dieu, il s'appelle Marduk. Les Moabites, ils disent notre dieu, il s'appelle Kemosh. Kemosh, quel nom quand même. Qui est vraiment moche. On ne peut pas s'empêcher de le dire. Voilà. Les Cananéens veut dire notre dieu, il s'appelle. Alors il y a plusieurs dieux. Il y a El, le nom de El, c'est une divinité. Il y a Yam également, etc. Chaque nation a son dieu. Le dieu est attaché à sa terre. On peut dire que le dieu émerge de la terre d'une certaine manière. Pour Israël, Dieu s'est révélé en sauvant son peuple sur une terre étrangère. Et il a cheminé à travers le désert, comme un dieu que certains exégètes appellent un dieu nomade. Alors on a construit un sanctuaire, mais c'est un sanctuaire fragile. C'est une tente. Et toute cette thématique sera reprise dans l'Épître aux Hébreux. Nous sommes des pèlerins et Dieu chemine avec nous. Mais il n'est pas lié à un territoire. Pourquoi ? Parce qu'il est le Dieu de toute la création. Et comme il a choisi Israël, si le temple, évidemment, est le lieu où Dieu donne rendez-vous, le peuple a plus d'importance que le lieu. Le peuple se déplace, et bien Dieu se déplace avec le peuple. La gloire de Dieu. Donc Israël humilié continue d'être porteur de cette gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, on a déjà quelque chose du mystère de la rédemption qui commence à poindre. Dieu est le Dieu de tout l'univers. Alors, on en a déjà des indices assez clairs dans les récits des patriarches, notamment dans l'histoire de Melchisédek, par exemple, un prêtre païen qui honore le Dieu d'Abraham, voilà, parce que c'est le même Dieu partout. Voilà. Et bien là, Ézéchiel va faire comprendre au peuple que la gloire de Dieu ne disparaît pas avec le temple. Même si, 14e parenthèse, même si pour le peuple juif, encore aujourd'hui, il y a l'idée que la sainteté du temple de Jérusalem demeure, et donc on va garder une attention particulière au soubassement du temple, c'est ce qui reste, ce qu'on appelle l'esplanade du temple, et c'est pour ça que les juifs vont prier au kotel, vous savez, on voit les photos, ils sont contre le mur, parce qu'il reste quelque chose de cette présence de Dieu. Voilà. C'est un autre sujet, mais Ézéchiel rappelle que le peuple, Dieu s'est attaché au peuple plus qu'à son temple. Alors, voilà, si on a bien compris cette question de la gloire de Dieu dans son lien avec le peuple, allons plus loin. Le peuple est un peuple pécheur, un peuple qui a péché. Alors, qu'en est-il de la gloire de Dieu par rapport au péché du peuple, puisqu'il y a une sorte d'incompatibilité. Depuis cette vision de gloire, je pars toujours de la vision, notre point de départ c'est la vision, Ézéchiel entend une voix qui lui parle, qui l'envoie transmettre une parole au peuple d'Israël pour dénoncer ses péchés. Une parole qui va être matérialisée par un rouleau. Vous savez que la Bible, à ce moment-là, c'est pas ça, ça c'est une invention chrétienne, ce qu'on appelle un codex. Ce sont les chrétiens qui ont inventé le modèle de la Bible, du livre tel que nous le connaissons. Le livre dans l'Ancien Testament, c'était un rouleau, comme ça. Voilà. On enroule, on voit encore dans les synagogues, les rouleaux, comme ça. Voilà. Dieu donne ce volume roulé qui est remis à Ézéchiel. Il était écrit au recto et au verso lamentation, gémissement et plainte. Évidemment, ce sera une parole qui sera difficile à dire parce qu'elle s'adresse à un peuple qui est une engeance de rebelle. Il s'agit de dénoncer le péché. C'est pourquoi c'est jamais drôle, jamais facile d'aller voir un peuple en dénonçant ses péchés. Mais comme c'est Dieu qui envoie Ézéchiel, eh bien, il lui donne l'esprit en même temps que le livre. Vous devinez avec quelle délectation les pères de l'Église vont pouvoir dire « Le livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur », ça veut dire qu'il y a un sens évident et un sens caché. La question du sens spirituel, on reçoit l'Esprit Saint. Voilà. C'est très, très, très significatif, cette scène où Dieu donne le livre à Ézéchiel. Je vous ai mis la reproduction d'un vitrail de Saint-Denis. Alors, pour être vrai, au risque de vous décevoir, c'est pas un vitrail médiéval, c'est une reconstitution de Viollet-le-Duc, je crois, qui a créé ce vitrail, mais qui reprend une imagerie médiévale. Et on voit justement la gloire de Dieu avec cette espèce de soleil. Et puis le livre qui est remis à Ézéchiel. On voit les quatre vivants. Voilà. Donc, Ézéchiel mange le livre pour que la parole devienne sienne. Donc le symbole est fort. Il mange le livre qui va le pénétrer. Et même si ce sont des paroles qui sont dures à prononcer, c'est doux comme le miel. Parce qu'évidemment, c'est une parole d'espérance, une parole porteuse d'espérance. Tout le livre d'Ézéchiel est traversé par la dénonciation des péchés d'Israël. Une dénonciation nécessaire pour que la conversion puisse s'opérer. Il faut que le péché soit démasqué pour que la vérité se fasse. Je vous renvoie à l'évangile de ce dimanche, l'évangile de la Samaritaine. L'amour, il n'y a pas d'amour sans vérité. Voilà. Pour que Israël puisse vivre de cet amour de Dieu, il faut qu'il y ait ce travail de vérité, qu'une conversion. Alors, il y a un passage du livre d'Ézéchiel qui nous parle de cette histoire de conversion. C'est l'histoire symbolique de Jérusalem, Ézéchiel 16, une des plus belles pages d'Ézéchiel, une page absolument saisissante. Très très belle, comme il y en a chez les prophètes. Il y en a des... Mais chez Ézéchiel, elle est particulièrement longue. Et elle permet, c'est une relecture de l'histoire d'Israël à travers la figure de Jérusalem, vue comme une épouse. Voilà, tu étais toute petite, te débattant dans ton sang, tu avais été abandonnée dans le désert. Et je t'ai pris, je t'ai lavé, je t'ai donné des beaux vêtements. Donc on pense à Israël au désert, en Égypte, à la libération d'Égypte. Je t'ai donné des joyaux, comme un fiancé pour sa fiancée. Et ces joyaux, tu as dit que c'était tes amants. Donc on voit l'idolâtrie. Et tu m'as méprisé, tu m'as abandonné. Et Dieu montre comment, malgré cela, eh bien, il va rétablir son peuple, il va lui rester fidèle. C'est une page tout à fait magnifique, vous voyez, pendant ce temps de carême. Lisez Ézéchiel 16. Qui nous dit comment le péché doit être reconnu pour qu'il y ait un chemin de réconciliation et retrouver le sens de l'amour. C'est la métaphore sponsale, les épousailles comme symbole de l'alliance. On en a parlé avec Osée, avec Jérémie. On voit qu'il y a vraiment une continuité théologique. Voilà, je vous ai mis quelques références bibliques. Bien sûr, le Cantique des Cantiques. Voilà. Cette métaphore sponsale pour exprimer l'alliance, c'est-à-dire l'amour jaloux de Dieu envers son peuple. Ce thème de l'alliance est fondamental, on l'a compris, puisque Israël a été appelé comme le peuple avec qui Dieu voulait établir cette alliance. Dans une alliance, chaque partenaire est responsable, mais évidemment c'est Israël qui est infidèle. C'est un truisme presque de le dire, c'est une évidence plutôt. Face à cette situation dramatique, on voit bien que le chemin que Dieu propose, c'est celui de la conversion. Ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. On aurait pu imaginer qu'il y a un échec, il y a eu un échec, quand même il y a eu pas mal de... un échec répété, souvenez-vous d'Élie, souvenez-vous d'Osée. Là, les péchés d'Israël ont continué. Ça a été l'exil à Babylone, situation de mort. Tout aurait pu s'arrêter là. 15e parenthèse. La question de la substitution dans l'Église qui remplacerait Israël parce qu'Israël serait pécheur. Et je suis malheureux de voir des publications quelquefois qui se disent catholiques et qui disent « bah oui, les Juifs, ils ont péché, ils portent le poids de leur péché, donc c'est normal, ils ont été rejetés ». Or, l'enseignement de l'Église refuse absolument cela. Les pères de l'Église l'ont refusé. Le première hérésie condamnée, c'était le marcionisme. Qui parlait du remplacement, hein, c'était une thématique un peu différente, c'est le rejet de l'Ancien Testament. Mais l'Église a toujours maintenu que le peuple Israël reste le peuple, et c'était redit par Jean-Paul II, de façon très nette, le peuple élu, choisi par Dieu, malgré ses infidélités. Et ça, on l'a dès le livre d'Ézéchiel. Ça fait longtemps que Dieu aurait pu rompre avec son peuple. Si Dieu rompt avec le peuple à qui il a promis une alliance définitive, alors c'est qu'il y a un mensonge. Or, précisément, il n'y a pas de mensonge. Et même si le peuple d'Israël a péché, Dieu reste fidèle. Et ça va être toute notre thématique maintenant. Hein. Comme le dit le cardinal Newman, hein, Dieu, il a préféré me reconquérir plutôt que créer de nouveaux mondes. C'est magnifique comme expression, hein, c'est Newman. Il a préféré me reconquérir. Il préfère reconquérir son peuple d'Israël plutôt que de dire « ça a raté avec Israël, on va partir avec autre chose ». Donc il ne faudrait pas transposer cette vision avec l'Église, comme l'ont fait des chrétiens, mais comme ne l'a pas fait l'enseignement officiel de l'Église. Ça faut bien le savoir. L'enseignement des papes, les papes ont toujours échappé, grâce à Dieu, à cette théologie de la substitution. Mais elle est quand même présente dans l'enseignement, hein, de certains théologiens, et elle n'est pas juste. Voilà, donc ça c'est un point qui est très très important. Hein. Dieu appelle toujours à une conversion, et non pas une destruction. Là, de ce côté-là, Ézéchiel est bien dans la continuité de Osée, Jérémie, l'école de théronomiste, hein, qui insiste sur la dimension du cœur, hein, l'appel à la conversion. Ça, c'est un passage que vous entendez pendant le temps de l'Avent, du carême. Hein. « Ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Hein. » Les espérances de conversion, alors c'est le premier chemin, hein, le chemin proposé par Osée, par Jérémie, appel à la conversion. Face au péché, appel à la conversion. Ce chemin a été déçu. Hein. L'exil signifie la mort. Conséquences du péché. Alors on va, comme Ézéchiel, à la différence de Jérémie, vit au sein de la réalité de l'exil, lui il a vécu l'exil, alors il va pousser la réflexion plus loin, il va franchir une étape. Seule une action radicale de Dieu va pouvoir changer les choses. Dieu a dit au peuple, essaye de donner ce que tu peux en te convertissant, même ça n'a pas réussi, alors Dieu va intervenir. Et là, on va avoir deux chapitres. Alors, j'ai mis que l'on peut considérer comme le sommet du livre d'Ézéchiel. Au début, j'avais mis qui est un des sommets, puis ça ne me satisfaisait pas. Et je n'ai pas eu le temps d'aller voir si les exégètes le considèrent comme le sommet. Mais je pense que c'est le sommet du livre d'Ézéchiel. Pourquoi ? Chapitre 36-37. Parce que on a l'impression qu'à un moment, Dieu change de ton. En disant, ça commence à bien faire. La situation est dramatique. Et vous allez voir que s'il y a beaucoup de bonnes raisons d'arrêter, moi, il y a une raison qui fait que je n'arrêterai pas, c'est la sainteté de mon nom. On pourrait dire, ma fidélité avec moi-même. Je ne mens pas, je ne suis pas un menteur. Dieu va jusqu'au bout. Ézéchiel, le voyant, qui est habité par l'Esprit de Dieu, donc il est complètement rempli de Dieu, il va révéler les projets et les intentions de Dieu. Dieu va intervenir, non pas simplement parce qu'il aime Israël, mais, dit-il, à cause de son saint nom. Autrement dit, le salut pour Israël s'appuie sur la fidélité de Dieu à lui-même. Le salut à la solidité que Dieu lui-même lui apporte. Par son péché, Israël a profané le saint nom de Dieu. D'une part, Israël a péché, alors ça on a insisté dessus, donc en étant désobéissant à la loi. Les païens également ont bafoué le nom de Dieu, par la violence qu'ils ont exercée envers Israël, la sainteté de Dieu exige, normalement, que ceux qui l'ont bafoué soient châtiés. Hein, quand un roi, quand il y a eu un crime de lèse-majesté, quand quelqu'un a giflé, le représentant de l'autorité, ben, il doit être puni. Voilà. Dieu ne va pas laisser le péché prospérer, comme s'il ne pouvait rien faire. Mais le basculement, c'est que s'il manifeste sa sainteté, ce n'est pas en détruisant ceux qui se sont dressés contre lui, mais en donnant la vie, en apportant à son peuple le salut. Vous avez, tout le monde connaît le chapitre 37, sur lequel je vais revenir, où les ossements desséchés, ça vous dit quelque chose ? Tout le monde connaît le chapitre 37. Mais on oublie que ce qui est très important dans le chapitre 37, c'est d'abord le chapitre 36. Et le chapitre 36, c'est le moment où Dieu dit, c'est justement le moment où il dit, ça commence à bien faire. Hein ? À cause de la sainteté de mon nom, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais faire du nouveau. Je vais apporter une rédemption. Donc c'est bien la sainteté de Dieu qui est le socle solide sur lequel toute l'histoire va pouvoir se poursuivre ou reprendre. La gloire de Dieu dans la restauration du peuple. Comme c'est par la désobéissance qu'Israël a péché, eh bien, Dieu va donner un cœur capable de pratiquer la loi. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu la voie ouverte par Jérémie qui avait annoncé que le Seigneur interviendrait pour graver la loi dans le cœur. La loi gravée sur des tables de pierre sera gravé dans le cœur de l'homme. Mais on a bien vu que le cœur de l'homme reste pécheur. Eh bien, Ézéchiel annonce que Dieu créera un cœur nouveau. Il y aura comme une nouvelle création, une nouveauté totale. Un cœur de chair. Je remplacerai votre cœur de pierre par un cœur de chair. Là où le cœur de l'homme, endurci par le péché, ressemble à un cœur de pierre. Et c'est l'Esprit Saint qui opérera cette transformation radicale. Ézéchiel, c'est le prophète qui introduit de façon très, très, très forte l'action de l'Esprit-Saint. Je cite ce passage que vous entendrez, que nous entendrons à la vigile pascale, la dernière des grandes lectures. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » D'ailleurs, en hébreu, c'est « j'ôterai de votre chair le cœur de pierre ». Alors, quand il dit « j'ôterai de votre chair », il parle du corps, mais pour dire dans sa dimension très concrète. « J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez mes préceptes et les pratiquiez. » Donc, il y aura un renouvellement profond de l'homme. 16e ou 17e parenthèse, j'ai oublié. Quand on entend que l'Ancien Testament, c'est la loi, et Jésus nous apprend l'intériorité, non, Jésus est fils d'Israël, il sait, il connaît Ézéchiel, et il sait que Dieu va faire cette transformation. La nouveauté de Jésus, c'est pas la découverte de l'intériorité, ça je vous l'avais déjà dit, mais c'est le fait que Jésus réalise, accomplit cette promesse, de manière totale, parce que lui apporte la nouveauté de l'esprit. Mais Ézéchiel, vous voyez, il va tellement loin que on l'a intégré dans la liturgie de la vigile pascale, et on n'a rien de mieux. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer le jour de la Pentecôte. Ils eurent le cœur transpercé et ils reçoivent l'Esprit Saint. On n'a rien de mieux à attendre que cette nouvelle création d'un cœur capable de répondre à Dieu. Alors, cette transformation du cœur ne sera pas sans conséquence sur la vie du peuple. L'essentiel, c'est que le cœur de l'homme soit transformé, mais il va y avoir des conséquences visibles aussi. La cause de l'exil est morale, vous l'aviez compris, c'était l'infidélité à l'alliance. Eh bien, si désormais le cœur de l'homme est pardonné, il est recréé, alors le retour à la terre va être possible. La terre d'Israël, on est en exil. Hein, dans cette recréation, je vais vous faire revenir sur votre terre. Et c'est ce qu'annonce justement l'oracle suivant. Ézéchiel 36, c'est « Je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai en vous mon esprit ». Chapitre 37, « Je vous ferai sortir de vos tombeaux, je vous ferai remonter ». En fait, l'idée, c'est de se lever. En hébreu, c'est le verbe, l'idée de se mettre debout, d'aller vers le haut. « Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ferai revenir sur la terre d'Israël ». Et vous voyez, c'est ça qui est très beau. Je vous ferai revenir sur la terre d'Israël, non pas parce que je suis gentil avec vous et que je fais un programme, mais c'est parce que c'est toujours à cause de la sainteté de son nom. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous établirai sur votre terre. Voilà. Alors cet oracle dit des ossements desséchés que nous connaissons tous, parle du retour des Judéens sur leur terre. Vous savez que c'est le moment où on se met à parler des Juifs. En hébreu, Yehudim, c'est-à-dire les habitants de Juda qui ont été déportés à Babylone. On dit, tiens, les Judéens, les Yehudim. Donc quand ils reviennent à Jérusalem, on va dire les Yehudim, Yudayoy en grec, ça a donné les Juifs. Voilà. Alors, il faut lire le Ézéchiel 37 comme une annonce d'une sorte de résurrection pour le peuple, parce qu'il va revenir sur sa terre. La tradition juive et chrétienne ultérieure y a vu une annonce de la résurrection des corps. Il faut bien comprendre que la résurrection des corps en tant que telle ne sera clairement affirmée que beaucoup plus tard dans le livre des Maccabées, dans le livre de Daniel. Voilà. Il n'empêche que il y a une intuition qui est juste parce que le même esprit qui a été capable de recréer le cœur des Israélites et de lui redonner vie en le ramenant sur sa terre après la mort de l'exil, eh bien ce même esprit saura bien redonner la vie à ceux qui gisent dans la mort, au sens le plus concret du terme. Comme les ossements sur le sol de la vallée. D'ailleurs, on retrouvera cet oracle presque mot à mot dans le livre de l'Apocalypse à propos de la résurrection. Voilà, mais ce que dit Ézéchiel, l'invocation de l'Esprit-Saint vient des quatre vents, esprit souffle sur ses morts et qu'ils vivent. L'Esprit vint en eux et ils reprirent vie et se mirent debout sur leurs pieds. Mais évidemment, dans cette annonce, la résurrection ne sera plus une métaphore, mais un événement. Voilà. Et là, la gloire de Dieu qui avait accompagné le peuple en exil, eh bien, va revenir avec le peuple à Jérusalem. Jérusalem restaurée. Et la gloire de Dieu va emplir le temple, non pas parce que le temple aura été reconstruit, mais parce que, dit Ézéchiel, les Israélites ne souilleront plus le saint nom de Dieu à cause de leurs péchés. Puisque le peuple a été restauré, on peut dire que la gloire peut se manifester pleinement. Voilà. Ézéchiel ne s'arrête pas là, je vais terminer. À la fin du livre, au chapitre 47, une dernière vision. Ézéchiel, Jean, dites.
Qu'on lit Ézéchiel, ça s'arrête au chapitre 43.
Chapitre 48. C'est 48. Je vous ai dit tout à l'heure, 47, il y a une dernière vision dont je vais dire un petit mot rapide. Et après, il y a un passage sur le partage du pays, une fois que Israël est revenu sur sa terre. Voilà. Mais j'ai terminé dans 30 secondes, donc on aura le temps de quelques questions. Voilà. Donc le chapitre 47, il y a une dernière vision. Je vous ai dit que Ézéchiel, c'est le prophète des visions. Il voit l'eau qui coule du côté du temple. Vous connaissez tous ce passage, qui forme un torrent. J'en avais jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'à la hanche. Et à la fin, il y en avait tellement, une eau poissonneuse. Et si, comme nous l'espérons, nous pouvons aller en Terre Sainte cet été, sinon ce sera l'année prochaine, l'année suivante, eh bien vous verrez la mer morte. Il y en a qui ont vu la mer morte. La mer morte, il n'y a rien qui peut vivre dans la mer morte. Vous, pour savoir ce que c'est que la mer morte, vous allez chez vous, vous prenez un verre, vous mettez un tiers de sel et deux tiers d'eau. C'est ça la proportion, un tiers de sel, deux tiers d'eau. Après, vous essayez de mettre un petit grain de blé ou un petit grain de... Vous voyez si ça pousse. Ne mettez pas un poisson, soyez pas cruel. Voilà. La mer morte, elle est morte. Elle est complètement morte. Donc quand la vision d'Ézéchiel nous dit que l'eau qui coule du côté du temple va emplir toute la vallée du Cédron, va emplir la mer morte, et qu'il y aura des arbres fruitiers qui pousseront toute l'année, c'est bien l'annonce d'une effusion de cet esprit, l'eau de l'Esprit Saint, hein, qui renouvellera toute chair. Hein. D'ailleurs, il y a une erreur, un cœur de chair et pas un cœur cher. Voilà. Ça veut dire aussi un cœur cher, C-H-E-R. Hein. Toute la création sera renouvelée. Voilà. Alors, voilà, on peut dire que c'est une sorte d'aboutissement hein, de ces prophéties de la restauration d'Israël sur sa terre et de la restauration du temple. Conclusion. Ézéchiel, le prêtre, qui souligne avec vigueur la sainteté de Dieu, est aussi le prophète qui, avec la même vigueur, montre combien cette sainteté exige le salut d'Israël. Dieu s'est lié à son peuple. Il ne veut pas que son nom soit bafoué, bien sûr par le péché, mais il ne veut pas non plus qu'il soit bafoué par une sorte de contradiction comme s'il avait rejeté son peuple. C'est la volonté de Dieu qui, librement, choisit de sauver son peuple pour que sa gloire soit manifestée. Il la manifeste en ne délaissant pas son peuple, mais en lui donnant la vie en abondance. Ce sont des thèmes qu'on retrouvera chez saint Jean. Je vous ai mis quelques références, il y en a encore d'autres. Et ce don de vie débordera Israël, il s'étendra sur toute la terre, comme le laisse entendre la vision d'Isaïe, Ézéchiel 47, la vision finale. Les eaux de l'esprit qui jaillissent du côté du temple, figurent du cœur transpercé de Jésus qui se répandront sur tous les hommes. Voilà. On n'a jamais terminé aussitôt. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Oui.
Vous avez parlé du peuple juif comme un peuple élu, un peuple choisi.
Oui.
Est-ce qu'ils ont une grâce particulière, une onction, quelque chose, je ne sais pas, une mission peut-être différente de nous qui emporte toute l'humanité derrière?
Alors,
pour que le monde soit fasse partie d'Israël. Peut-être la vocation d'Israël fasse partie d'Israël. Tout le monde, mais
Qu'est-ce qu'ils ont de plus? C'est que ce sont les descendants des 12 tribus de Jacob. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, ce qui est important dans Israël, c'est qu'on est juif par sa naissance. C'est pour ça qu'on dit que ça passe par la mer, pour s'assurer que ça passe par la mer. Alors, en très 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 résumé, je résume cette question en disant que Dieu aime tous les hommes, mais le propre de l'amour, c'est d'être capable de choisir. Dieu a choisi Israël afin de choisir toute l'humanité. Et donc, la mission du peuple juif, c'est de témoigner de la fidélité de Dieu. Dieu a appelé un peuple pour faire alliance, pour dire à toute l'humanité, vous avez vu, j'ai mis un peuple à part, et regardez, je lui reste fidèle. Eh bien, je vais faire pareil avec vous. Et c'est pour ça que dans l'Église, on lit l'Ancien Testament. Ce qui s'est passé pour Israël, Dieu le réalise pour nous. Et c'est ce qui se passe avec Jésus quand il dit maintenant, annoncez cela à toute l'humanité. C'est une réponse trop rapide, mais c'est capital, absolument capital. Oui ?
Comment il faut interpréter la parabole des mauvais vignerons quand on dit le royaume leur sera retiré pour être donné à un peuple qui lui sera porté du fruit ?
Alors, à la fin, il ne faut pas oublier la fin, le début et la fin. La vigne, c'est Israël. Primo, c'est toujours Israël. Deuxièmement, les grands chefs, les chefs du peuple et les grands prêtres comprenaient bien que Jésus parlait d'eux. Alors, donner à une autre nation, ethnée, ce n'est pas au sens d'un peuple, parce que dans ce cas-là, on aurait eu un autre mot pour l'idée du remplacement d'Israël, mais à un autre groupe d'hommes. Et de fait, il y aura la disparition du sacerdoce du temple de Jérusalem. Mais à aucun moment, Jésus ne dit que la mission du peuple, et là on y va, que la mission d'Israël se termine. Bien au contraire, j'ai été envoyé vers les brebis perdues de la mission d'Israël, et Matthieu est rempli de cette idée que Israël reste aimé de Dieu, et saint Paul le dira. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non. Même s'ils ont péché, ça reste un mystère pour nous. Donc, les vignerons homicides, ça concerne les chefs du peuple. Mais la vigne, c'est Israël. Et comme le dira saint Paul, il va reprendre cette image, nous on est greffés. Voilà. Voilà. Ça, c'est très très important. Voilà. Là, comme les complis ont commencé, on va y aller. S'il y en a qui ont des questions, je reste là. Bonne soirée. Donc, la prochaine fois, ce sera... Isaïe. Bravo.